Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Corinne Laïc.
Bonjour.
Journaliste politique à l'Opinion, vous étiez auparavant à l'Express, vous publiez chez Fayard le portrait politique et personnel d'Emmanuel Macron le plus fourni, le plus documenté de cette mi-mandat. Président cambrioleur, c'est le titre de votre enquête, comme un gentleman cambrioleur, comme Arsène Lupin ?
Pas toujours, pas forcément, plutôt comme un montant l'air, qui est extrêmement mobile et qui se faufile partout. Cambrioleur parce qu'il est rentré par effraction dans la vie politique, hein. Il a profité de l'affaiblissement des deux grands partis pour se faufiler alors que son parcours ne le prédisposait pas. Et puis montant l'air parce qu'il est extrêmement mobile et qu'il va piquer les idées et les hommes un peu partout. Mmh. Et ce qui a fait sa force pendant la conquête, parce que personne ne l'a vu venir, fait à mon avis sa faiblesse dans l'exercice du pouvoir parce qu'il est tellement mobile qu'il finit par en devenir inquiétant aux yeux de beaucoup de Français.
Et comme un cambrioleur, il est insaisissable dans sa personnalité, mais vous essayez de percer quelques mystères dans ce livre. Je parlais d'une enquête de référence parce que vous interrogez au fond tous les aspects de son comportement et de sa personnalité, Macron et ses collaborateurs, Macron et les patrons, Macron et Angela Merkel, dont on voit la fascination, l'intérêt, la curiosité exercée par Macron auprès de la chancelière allemande, Macron et Philippe de Villiers, alors ça c'est formidable, on va en parler après si on a un peu de temps, Macron et Brigitte, qui est sans doute le cœur du sujet. Et toujours dans votre récit, Corinne Laïc, la question de l'affect, de la sincérité et du calcul. C'est un immense séducteur, il y a plein d'exemples dans votre livre, mais écrivez-vous, il drague utile. Tout est calcul chez lui.
Oui, attention, je ne dis pas qu'il n'a pas d'affect. Il a des affects, mais ses affects sont limités.
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'affect.
Voilà.
Je dis que c'est la question du dosage.
C'est la question du dosage. Et dans sa relation avec les gens, il en met très peu, mais il utilise, il sollicite les affects des autres. Et il déclenche des sentiments quasiment amoureux chez les autres. Et la relation est très inégale, parce que lui se sert de la relation qu'il a tissée. Les autres y croient, un peu comme dans un couple, comme d'une relation de séduction entre deux personnes. La relation est complètement inégal. Donc, il crée beaucoup d'attentes, il crée beaucoup de déceptions et sa séduction, elle doit s'exercer en face à face. Pourquoi ? Parce qu'elle est très physique. Ça commence par le regard. Il a un regard bleu transparent. Il ne scie pas des yeux. Donc, il vous fixe, il vous harponne. C'est lui-même qui le dit, d'ailleurs. Celui-là, je l'ai harponné.
Et il ne se laisse distraire par rien.
Par rien.
Pas par son portable.
Jamais, jamais, jamais. Hein ? Et puis, il est très tactile. Alors, plus avec les hommes qu'avec les femmes, parce qu'avec les femmes, il sent qu'il faut maintenir quand même un peu de distance. Donc, il commence à vous prendre la main, le bras, l'épaule, et vous êtes ferré. Et vous y croyez. Et il vous dit, comme tous les bons séducteurs, ce que vous avez envie d'entendre. D'où les sincérités successives. Parce que je pense que quand il les professe, ces vérités, il y croit. Mais après, il peut dire exactement le contraire à la personne suivante, avec la même sincérité. Et ça pose effectivement le problème de son authenticité auprès de l'opinion publique. Et je pense que l'opinion sent cela. Et je pense que ça crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'incompréhension. Lui-même le dit. Il dit, les Français ne savent pas qui je suis. Mmh. Mais il fait beaucoup d'efforts pour rester toujours aussi verrouillé.
Et quand la drague n'est plus utile, ou quand la relation n'est pas d'un intérêt immédiat, il préfère disparaître, s'éloigner, ou ne plus répondre au téléphone, comme c'est arrivé avec Philippe de Villiers,
après
l'épisode du Puy du Fou, à la fin du confinement.
Oui, parce qu'il a parfois des amitiés un peu dangereuses. Et avec Philippe de Villiers, qui est quelqu'un qui parle beaucoup, il a noué une relation assez solide, je pense, mais où il y en a un qui est quand même plus demandeur que l'autre, et il y en a un qui y croit davantage que l'autre, et comme Philippe de Villiers s'est répandu sur une conversation privée qu'il a eue avec Emmanuel Macron à propos d'Édouard Philippe, je ne peux pas dire si les propos rapportés par Villiers sont exacts ou pas, l'Élysée les dément, Villiers les affirme, mais Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse attention. Donc il n'a plus répondu à ses textos depuis cet été et l'épisode du Puy du Fou et Brigitte Macron, que Villiers aime beaucoup, non plus. Et Philippe de Villiers était très en colère cet été. Il voulait se présenter à la présidentielle contre Macron.
Pour le faire battre.
C'est bien qu'il n'a aucun espoir de gagner, mais pour le faire battre.
Avec ses proches, avec l'équipe qu'Emmanuel Macron a constituée à l'Élysée, il est devenu, écrivez-vous, un monstre froid. Et cette fois-ci, là, sans affect.
Oui, alors, il est assez étrange parce que plus les gens sont lointains, où plus ils sont âgés, plus il est amical et affectueux avec eux. Plus ils sont jeunes et plus ils sont proches, et plus il est dur et exigeant. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus il est dur et exigeant, et avec ses collaborateurs, il est dur et en même temps, il peut très bien garder des liens avec eux après qu'ils aient quitté l'Élysée. Mais il est dur par le silence. Il est dur parce qu'il ne leur dit jamais rien, parce qu'il n'y a pas de merci, il n'y a pas de reconnaissance. Il considère que ce sont des militants sacrificiels qui sont là pour se dévouer pour la cause publique et qui n'ont pas à dire merci. Il est très darwinien, il fait travailler les gens en espérant que le meilleur gagne et que les autres s'en iront d'eux-mêmes. Donc il ne gère pas les gens, il ne gère pas les ressources humaines. Il compte sur la sélection naturelle, mais malheureusement, la sélection naturelle, ça marche en sciences naturelles, mais pas toujours dans la vie.
Et du coup, il y a assez peu d'engueulades. C'est-à-dire que quand il ne dit pas les choses en face, il préfère s'éloigner ou ne pas répondre.
Absolument, c'est exactement ça.
Emmanuel Macron, vous le suivez depuis 2011-2012,
Alors, j'ai fait sa connaissance en 2011, quand il était un conseiller dans la campagne de François Hollande, avant même que Hollande ne soit désigné par la primaire socialiste. Je l'ai suivi depuis, comme secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis ministre de l'économie, puis de nouveau à l'Élysée. Et je raconte donc dans le livre un déjeuner que j'ai eu avec lui le 2 mai 2012. C'est le jour du débat de l'entre-deux-tours. François Hollande n'est pas élu. Emmanuel Macron est pressenti pour devenir secrétaire général adjoint. Et au cours de ce déjeuner absolument hallucinant, il parle de lui comme s'il était une force politique qui allait se rallier à Macron.
Il parle de son ralliement.
Et il met des conditions. Je ne vais pas à l'Élysée pour faire la politique à la papa. Je veux lutter contre les rentes. Et il commence déjà à critiquer la politique de Hollande et les promesses qu'il a faites durant la campagne et qui lui paraissent trop généreuses, trop laxistes.
Au passage, il se dit social-démocrate de ce déjeuner. Quand on est social-démocrate comme moi, il a une phrase comme ça.
Emmanuel Macron ne l'assume pas, mais il vient de la gauche. Il commence la politique à gauche. Il veut rentrer au Parti Socialiste, à la Fédération du Pas-de-Calais qui le refuse. Il fréquente la CFDT. Il vient de la gauche. Et aujourd'hui, quand on lui demande s'il en vient, il dit « je suis progressiste ». Il ne veut pas l'assumer.
On a le sentiment d'un homme très seul.
Oui.
Qui sont les personnes de confiance, s'il en reste, d'Emmanuel Macron aujourd'hui ?
Alors, dans la sphère politique, évidemment Alexis Kohler, le secrétaire général. Dans la sphère privée, Brigitte Macron et la famille de Brigitte, qu'il a adoptée. Il considère que les petits-enfants de Brigitte sont ses petits-enfants. Moi, quand je l'ai vu pour le premier portrait que j'ai fait de lui en 2013, il a à peu près 34-35 ans, il parle de ses petits-enfants. Et sa petite-fille est née à 14 ans et demi. Et Brigitte Macron m'a raconté qu'il était extrêmement vigilant avec ses fréquentations. Donc, il se comporte à la fois comme un grand-père. Et comme un père, puisque l'autorité est plutôt du côté du père. Et puis, il y a la figure tutélaire de sa grand-mère, qui est extrêmement importante. Il a une relation très forte avec elle. Elle est décédée en 2013, mais d'une certaine manière, il est toujours dans une conversation avec elle. Et il dit que si elle était vivante aujourd'hui, elle aurait du mal à supporter toutes les critiques qui sont adressées au président de la République, parce qu'elle vient d'une époque où cela ne se faisait pas.
On s'arrête un instant sur Brigitte Macron, la plus proche, un soutien indéfectible et intime qui, au passage, vous révèle l'existence d'un deuxième roman.
Oui.
On connaît un premier roman qui est resté dans les tiroirs, etc. Mais il en a écrit un deuxième.
Oui, il en a écrit un deuxième. Elle m'a dit que c'était consacré à une dame âgée énigmatique. J'ai évidemment tout de suite pensé à la grand-mère d'Emmanuel Macron. Je lui ai posé la question, elle me répond « Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué, vous verrez, c'est un ovni ». Et elle attend avec impatience que son mari soit sorti de l'Élysée pour que ce roman soit publié. Elle le rêve comme écrivain, et lui aussi se rêve comme écrivain. Je ne sais pas s'il en a les qualités, mais c'est une sorte de Graal pour lui qu'il rêve d'atteindre.
Une ambition en tout cas, une ambition. Au travers de votre portrait enquête d'Emmanuel Macron, Corinne Laïc, il y a aussi les portraits de ceux qui l'entourent. Édouard Philippe qui ne veut pas partir, qui ne veut pas du tout quitter Matignon. Vous racontez cette scène des adieux avec cet hommage que lui rend Emmanuel Macron et face à lui, Édouard Philippe reste muet. Richard Ferrand, le sage, celui qui dit aux conseillers qui veulent sortir la vidéo sur le pognon de dingue, mais vous êtes givré. Bon, voilà. Et François Bayrou qui, lui, de façon assez étonnante, encourage la diffusion de cette vidéo, ce qui était une bêtise et ce qui a complètement occulté le discours du lendemain, avec tous ceux qui les entourent, ces ministres, hauts responsables, etc. sont des relations utiles uniquement, des relations d'intérêt ?
Non, je pense qu'il doit avoir une certaine affection pour les gens, mais il met l'affection à distance et il agit selon ses intérêts. Je pense qu'il aime bien Ferrand, il aime bien Bérou, mais de l'affection profonde, je pense qu'il n'en a pas vraiment, sauf pour Brigitte, la famille de Brigitte et peut-être quelques proches.
Président cambrioleur, ça paraît chez Fayard et c'est bourré d'informations et de récits et de confidences. J'ai rencontré une centaine de personnes pour cette enquête. Corinne Laïc, merci beaucoup
d'être venue.